Bien sûr que ça fonctionne. Un, deux. Un, deux. Check, check. Amen, ça fonctionne. Merci beaucoup, l'équipe des musiciens. Hey, vous êtes bénis ici. Wow! Vous avez des bons musiciens qui jouent pour le Seigneur. Amen. C'est vraiment... je veux vraiment vous féliciter. Je suis vraiment béni dans la présence de Dieu. Puis je disais tout à l'heure à Allison, « Good job, Allison! Good job! » Amen. Il nous conduit dans la présence de Dieu. C'est vraiment bénissant. Puis oui, le dernier chant qu'on a chanté, « Toucher que Dieu Seigneur nous touche », bien... Je prie que le Seigneur puisse nous toucher ce matin. Je prie que le Seigneur puisse nous toucher aussi à travers le message que j'aimerais de vous partager ce matin. Parce que le Seigneur, il veut vraiment se glorifier à travers de nous, à travers son Église. Il veut nous utiliser dans ce monde ici. Vous croyez ça avec moi? Amen. Et puis, j'aimerais qu'on pourrait prier encore une fois ce matin. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci que nous sommes tes enfants, que nous sommes rachetés, que nous sommes sauvés. Et c'est à cause de ta grande bonté, Seigneur, envers nous, de ton amour et de ta grâce dans nos vies que tu déverses. Et Seigneur, tu désires aussi que ta bonté, Seigneur, que ta bonté soit manifestée à travers de nous dans ce monde. Tu nous appelles, Seigneur. Et je prie ce matin qu'à travers ce message, que tu puisses, oui, nous toucher, Seigneur, toucher nos cœurs, Seigneur, que tu puisses te révéler à nous quelle est ta volonté, que tu puisses nous faire connaître ton cœur, Seigneur, encore davantage pour notre monde autour de nous, Seigneur. Ton cœur, Seigneur, qui a été manifesté en nous, tu veux manifester à travers nous. C'est ma prière. Je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur. Pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume, oui, pour l'édification de ton Église, pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière ce matin. Je prie que tu me guides, Seigneur, et je prie que mes frères et sœurs ici, ce matin, n'entendent pas seulement ma voix, mais qu'ils entendent particulièrement, Seigneur Dieu, ta voix, la voix de ton esprit. Oui, Saint-Esprit, parle à chacun de nous. Change nos vies, Seigneur, pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'avancement de ton royaume. C'est notre prière, Dieu. C'est ma prière pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez bien? OK, c'est bien. Moi, j'entends pas trop bien ici, mais c'est correct. C'est pas vous que vous m'entendez. Mais le titre du message que j'aimerais vous partager ce matin, ça s'intitule « Une surprise étrange en faisant le bien ». Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les surprises? OK. Il y a des gens qui aiment les surprises, puis il y a des gens qui n'aiment pas trop les surprises. Moi, j'en connais. Je connais des gens, je peux vous dire que mon épouse, elle n'aime pas trop les surprises. Il faut que je fasse attention quand je veux la surprendre. Hein? Mais c'est vrai, il y a des gens qui aiment les surprises, plus ou moins. Et nous pouvons dire que la vie, vraiment, elle est remplie de surprises. Hein? Des bonnes, puis des moins bonnes, c'est vrai. Puis c'est inévitable, dans un sens. On ne peut pas connaître l'avenir, hein? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve, même si on essaye de planifier puis d'organiser nos choses le plus possible. Et c'est pourquoi aussi, il est toujours bon de dire « si Dieu le veut » lorsqu'on planifie des choses, « si Dieu le veut ». Mais parce que pour Dieu, il n'y a pas de surprise, nous pouvons toujours avoir confiance en lui dans toutes les surprises que la vie peut nous amener. Amen. Parce que la grâce de Dieu, elle ne change pas et la grâce de Dieu nous suffit dans toutes circonstances. On pourrait dire aussi qu'il y a différents niveau de surprise. Dans le sens que, parfois, on peut s'attendre à certaines choses, ce qui va arriver. C'est pareil comme quand, lorsqu'on va voir une game de hockey, hein, on sait sur papier, là, quand on regarde les statistiques, on peut s'attendre à qui ce qui va gagner puis qui ce qui va perdre. Vous savez, c'est comme un petit peu avec les Canadiens de Montréal. On peut s'attendre que ça ne sera pas les Canadiens de Montréal qui vont gagner la Coupe Stanley cette année. Désolé pour les fans du Canadien. Hein? Mais les statistiques étant ce qu'ils sont, vous savez, on peut être surpris, mais on peut s'attendre à certaines choses. C'est vrai. La Bible nous aide aussi à s'attendre à certaines choses. Elle nous prévient pour que nous ne soyons pas trop surpris et pour que nous puissions réagir bien selon la volonté de Dieu dans des circonstances qui peuvent nous arriver. Jésus a prévenu ses disciples avant de quitter. On lit ça dans Jean 14 à 16. Et il y a des surprises qui peuvent vraiment nous surprendre. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que parfois tu fais quelque chose, puis tu t'attends à une certaine réaction, à un certain résultat, et parfois, ça peut, c'est le contraire qui arrive. Puis là, wow, on est vraiment surpris. Par exemple, tu fais du bien à quelqu'un, tu fais le bien envers quelqu'un, tu l'aides peut-être, tu lui offres quelque chose pour rencontrer ses besoins, vous savez. Et puis la personne, soudainement, dans un sens, tu t'attends qu'elle soit reconnaissante, au moins qu'elle te retourne pas le mal pour le bien. Et parfois, ça peut arriver que la personne va avoir une réaction contraire. Et la personne va te retourner le mal. Un peu comme Jésus. Jésus est venu, il a fait le bien, plus que n'importe qui d'autre. Et pourtant, notre monde l'a rejeté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on fait du bien et puis que parfois, on a une réaction qui nous surprend, une réaction différente, que les gens ne réagissent pas vraiment comme qu'on s'y attend? La Bible répond à cette question-là. Et la raison pourquoi je vais vous adresser ce sujet, je crois que si nous voulons vraiment apprendre à aimer comme Dieu et à vivre selon le cœur de Dieu, parfois ça va nous arriver qu'on fait le bien puis que les gens ne reçoivent pas comme qu'on pensait. Et ça peut nous sembler étrange. Et parfois, on peut avoir le sentiment de se retrouver comme dans une fournaise lorsque ça nous arrive. Mais si nous laissons la fournaise faire son œuvre en nous, nous allons apprendre à aimer comme Dieu nous a aimés, à aimer comme Dieu nous appelle à aimer, à faire le bien en tout temps comme que Dieu voudrait qu'on fasse le bien en tout temps. Et ça, ça fait une différence dans notre monde. Vous savez, comme chrétiens, c'est la volonté de Dieu que nous faisons toujours le bien autour de nous. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et parfois, les résultats que nous recevons, ça peut peut-être nous surprendre. Peut-être que maintenant, vous savez, ça va quand même assez bien. Peut-être qu'un jour, les jours vont être plus difficiles pour les enfants de Dieu. Que notre bien va être reçu d'une différente manière. Et je crois que c'est important que nous réalisons cette leçon que Dieu nous appelle à toujours faire le bien. Et alors que nous entrons dans une saison de l'année aujourd'hui, vous savez qu'on désire démontrer l'amour de Dieu dans ce temps des fêtes. Vous savez, c'est une belle opportunité vraiment pour démontrer l'amour de Dieu. J'aime ce temps ici, vous savez, parce que souvent c'est une bonne saison pour faire le bien, puis en même temps on peut parler de Jésus, parce que c'est ça que nous célébrons. Mais peut-être, alors qu'on rentre dans une saison comme si on veut démontrer l'amour de Dieu d'une façon tangible, on veut faire du bien dans nos familles, dans nos communautés, autour de nous, il se peut parfois que nous ayons des surprises qui peuvent nous sembler étranges. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire? Et j'aimerais qu'on pourrait lire ensemble, vous avez votre Bible, dans 1 Pierre, le chapitre 4. On va lire à partir du verset 12 au verset 16. Puis j'espère que je vais me rappeler comment ça fonctionne ici. Pasteur Fern, comment ça fonctionne? OK, mais il faut que... Il n'est pas... excuse, il est pas ouvert ici, là. Ou... excusez. Tournez dans vos Bibles. 1 Pierre, le chapitre 4. On va relire le verset 12 au verset 16 ensemble. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On va lire ça ensemble. Sur la flèche, pasteur Fern, ou sur le piton? À chaque église, c'est différent. On y va? Ah! Non. There we go. 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 12. Les apôtres n'avaient pas ce défi-là dans le temps. Ça nous dit ceci. On va le lire ensemble. Bien-aimés, Pierre dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. La première chose que j'aimerais de voir avec vous ce matin, c'est ceci, c'est la puissance étrange du témoignage en faisant le bien. Lorsque l'apôtre Pierre écrit aux chrétiens du premier siècle, vous savez, il y avait beaucoup de croyants qui vivaient des persécutions. Il y a une grande persécution même qui se préparait contre les chrétiens à cette époque-là. Et ici, Pierre, il veut enseigner quelle est la volonté de Dieu à travers la souffrance. Et une chose qu'il veut vraiment dire, qu'il veut faire, il veut encourager les chrétiens. Il veut à toujours faire le bien, même lorsqu'ils rencontrent des défis, même dans la souffrance qu'ils peuvent rencontrer, même lorsqu'ils ne sont pas toujours accueillis. On pourrait dire que qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici? Il est en train, en fait, de dire la même chose que Jésus a enseigné dans le sermon sur la montagne. Et dans Matthieu 5, j'aimerais qu'on pourrait le lire ensemble, dans Matthieu 5, au verset 43, Jésus a dit ceci, vous connaissez peut-être, sûrement, il a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il dit, afin d'être les fils de votre Père céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Il dit, « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ici, Jésus, vraiment, il est en train d'enseigner, vous savez, d'aimer non seulement ceux qui nous aiment, mais d'aimer même nos ennemis et de faire du bien, pas seulement à ceux qui nous font du bien, mais même à ceux qui nous détestent et qui nous maltraitent. Aïe, aïe! c'est pas... Et ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Savez-vous que la raison pourquoi l'Église a tellement grandi au début de son histoire, c'est particulièrement à cause de l'amour qui régnait dans la famille de Dieu et du bien que l'Église apportait dans leur communauté. Les historiens comme Josephus, en fait, ils nous disent que à cette époque-là, lorsqu'il y avait des gens qui étaient malades, Même des gens qui étaient malades avec des maladies contagieuses, à cette époque-là, beaucoup de gens, ils fuyaient ces personnes-là pour se protéger. Mais on nous dit que des chrétiens, beaucoup de chrétiens, eux, ils restaient et ils aidaient les gens qui étaient dans le besoin. Il y en a, ils risquaient même leur vie, même avec des lépreux, on dit. Ils choisissaient de rester avec eux autres. On nous dit aussi que la réputation des chrétiens était qu'ils ne prenaient pas seulement soin des leurs, mais aussi des autres qui n'étaient pas chrétiens, qui ne croyaient pas en Jésus comme eux. Et ça, c'était vraiment pas normal. C'était comme bizarre, mais c'était tout un témoignage. C'était tout un témoignage pour le nouveau groupe de personnes qui avaient décidé de suivre Jésus-Christ. Et oui, au départ, il y avait des gens qui se moquaient des chrétiens, mais à un moment donné, ils ont vu la différence dans leur vie à travers ce qu'ils faisaient, le bien qu'ils faisaient. Vous savez, faire du bien envers ceux qui t'aiment, c'est bien. C'est juste, ça fait bien. Et en fait, on pourrait dire que c'est même normal. Mais faire du bien, aimer et risquer ta vie pour ceux qui ne t'aiment pas, que tu ne connais pratiquement pas, ça, c'est pas normal. On pourrait dire que ça, c'est révolutionnaire, c'est extravagant, c'est divin. Et c'était le témoignage de l'Église du premier siècle, même si l'Église n'était pas parfaite. Parce que quand on lit les épîtres de Paul, on voit bien que les églises n'étaient pas parfaites. Vous êtes avec moi? Vous savez? On nous dit aussi, même à cette époque, vous savez, qu'il y avait beaucoup de femmes qui acceptaient la bonne nouvelle en Jésus et qui voulaient se joindre aux chrétiens parce qu'elles étaient soudainement respectées comme une personne et non comme un objet ou un esclave. Jésus a démontré un profond respect pour les femmes qui était contraire à la culture de cette époque-là. Il a élevé le statut, la valeur de la femme, vraiment, c'est remarquable. On nous dit aussi qu'à cette époque-là, il y avait aussi des enfants, il y avait des bébés filles qui naissaient, et il y en a plusieurs qui étaient abandonnées à cette époque-là, parce qu'elles étaient une fille, et une fille, ça ne rapportait pas beaucoup d'argent. Ça coûtait des choses. Ça se faisait à cette époque-là. Les historiens le rapportent, vous savez. Et l'Église a été contre cette pratique-là parce qu'il valorisait. Et vous savez, ça se produit encore aujourd'hui dans notre monde. En Ouganda, c'est peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'Église Watoto en Ouganda. Et l'Église de Watoto, je crois qu'ils ont débuté dans les années 90, mais qu'est-ce qu'ils ont eu à cœur de faire? Ils ont eu à cœur d'aller ramasser les enfants qui étaient abandonnés au dépotoir, dans les dompes, parce qu'il y avait des femmes qui avaient des enfants, puis qui étaient vraiment mal pris, qui étaient dépourvus, puis tout ça, puis ils ne pouvaient pas prendre soin, puis même, c'est pas juste des femmes, là, ils amenaient leurs enfants dans une dompe parce qu'ils ne pouvaient pas en prendre soin. Puis parfois, parce que c'était une fille en plus, vous savez. Et cette église-là, Watoto, c'est en Ouganda, je crois que c'est le pasteur Gary Skinner, si je ne me trompe pas. Ils ont eu à cœur vraiment d'aller ramasser ces enfants-là. Et ils en ont ramassé, je ne sais pas combien, vous savez, des centaines, probablement des milliers maintenant, vous savez. De ramasser ces enfants-là pour leur donner une chance de vivre, de prendre soin d'eux autres, vraiment, de leur donner l'aide. Et ils ont été pas seulement pour aider les enfants, mais pour les mamans aussi qui étaient prises dans des situations qui étaient dépourvues, tu sais, ils les ont aidés également. Et puis, en fait, ils ont sauvé plusieurs personnes et cette église-là a grandi énormément. Et ils ont fait une tournée, l'église Watoto, au Canada, l'année passée, ils viennent assez souvent, et ils ont une chorale. Et puis, l'année passée, à Edmundston, ils étaient dans le coin, justement, et j'étais là. Et la chorale de Watoto a fait ils font des spectacles aussi, ils lèvent des fonds pour leur ministère. mais il y avait à peu près 15 ou 20 enfants, si je ne me trompe pas, là, qui chantent. Et tous ces enfants-là qui ont à peu près 8-10 ans, ou, il y en a qui ont peut-être sont un petit peu plus vieux, c'est tous des enfants qui ont été récupérés dans ces endroits-là. Vous savez? Et juste pour dire qu'il y a, c'est un témoignage puissant de l'amour de Dieu. Le christianisme, vous savez, a contribué à apporter un respect à la vie humaine plus que n'importe quelle autre organisation, croyance et enseignement dans le monde. Et il y a des personnes aujourd'hui, peut-être, vous savez, il y en a qui rejettent et qui méprisent le christianisme, puis il y en a même qui vont dire que le christianisme, c'est une nuisance à la société, qu'est-ce qu'on entend. Mais ils ne réalisent pas tout le bien que le christianisme a apporté dans notre monde. Et si nous avons un bon pays aujourd'hui, comme le Canada qu'on a, c'est grâce au christianisme. Amen. Et c'est à travers le bien que le christianisme a apporté. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui veut faire du bien. Et lorsque Pierre écrit aux chrétiens ici, vous savez, il y en avait plusieurs, en fait, qui faisaient le bien et qui vivaient avec des valeurs morales qui étaient beaucoup plus élevées, qui s'étaient détournées du mal. Leur vie avait été changée. Leur cœur avait été changé par le... Et ils voulaient faire le bien en reconnaissance du bien que Dieu avait fait dans leur vie en Jésus-Christ. Mais il y en avait qui avaient tout perdu, vous savez, puis ils étaient persécutés aussi. Il y en a qui étaient beaucoup persécutés, mais en même temps, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'en même temps, il y avait beaucoup de personnes qui voyaient le bien que ces chrétiens leur faisaient. Et qui voyaient les injustices à leur égard et qui n'approuvaient pas ces injustices-là. Et à travers ça, il y en a plusieurs qui se convertissaient à la foi en Jésus-Christ. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que l'Église continuait de grandir malgré l'opposition, la persécution qu'ils rencontraient. Vous êtes avec moi ce matin? Par la puissance de leur témoignage. C'était un peu ce qui se produisait au tout début de l'Église aussi. On le lit dans Actes 2, 46-47, ça dit, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Vous savez? Le peuple voyait quelque chose de différent, il était attiré, et le Seigneur, à travers ceci, y ajoutait à l'Église. On pourrait dire que c'était un des moyens d'évangélisation que Dieu utilisait pour convaincre le monde, pour les amener. Ce n'était pas juste la bonne doctrine, ce n'était pas seulement le message de l'Évangile qui faisait que l'Église grandissait, c'était aussi le témoignage de l'Église, des chrétiens, alors qu'ils pratiquaient le bien d'une manière extravagante. Vous êtes avec moi? Et ça, c'est une des choses qui amenait plusieurs personnes autour d'eux à examiner leur vie et à se repentir et à écouter le message qu'il y avait à dire, cette gang-là, là, qui était fervent pour le bien. Et ça les amenait aussi plusieurs à croire en Jésus-Christ sous la conviction du Saint-Esprit. Et l'Église grandissait. Vous savez, pour voir le royaume de Dieu avancer, nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de proclamer la parole de Dieu, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit qui agit, et nous avons aussi besoin de la persuasion de l'amour, du témoignage de l'amour de Dieu à travers le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est important, vous savez, qu'on puisse réaliser ceci. Un témoignage puissant. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que parfois, en faisant le bien, il y a des réactions étranges qui peuvent arriver. C'est, on peut être surpris. Et vraiment, des fois, on se demande, mais, me semble, quand tu fais du bien à quelqu'un, il devrait être content. T'sais? Mais ce n'est pas toujours la chose qui arrive. Et une des raisons, c'est parce que nous sommes dans un combat spirituel aussi, dans une guerre spirituelle. Mais ici, on voit que malgré tout le bien que les chrétiens faisaient, ça ne changeait pas tous les cœurs à leur égard. Et en fait, dans l'Épître de Pierre et beaucoup ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils faisaient le bien, puis en retour, ils se faisaient insulter. Ils se faisaient outrager, ils se faisaient persécuter, mépriser, parfois ridiculiser, enlever leurs biens, expulser. Il y a eu beaucoup de persécutions. Et je suis persuadé, vous savez, que même si plusieurs de ces chrétiens-là, puis je dirais bien peut-être la plupart, ils savaient que ça faisait partie de l'appel d'être un disciple de Jésus-Christ, parce que Jésus lui-même avait été rejeté et crucifié, lui qui avait fait du bien plus que n'importe qui d'autre, vous savez. Et certains devaient quand même trouver ça étrange. Puis peut-être qu'ils se demandaient, mais pourquoi que ça nous arrive? Ou peut-être qu'ils se demandaient, qu'est-ce qu'on devrait faire? Peut-être qu'il y a des gens qui... Peut-être qu'il y a certains chrétiens qui étaient tentés d'arrêter de faire le bien. Si ça leur cause du trouble, puis ça leur cause de la difficulté, tu sais, peut-être qu'ils se disaient, bien, ça vaut-tu vraiment la peine? Peut-être qu'ils se disaient, bien, tant qu'à souffrir, on va souffrir en vivant comme le monde. Tu sais, on va enjoyer au moins les choses du monde. Peut-être qu'ils se disaient ceci. Tu sais. Peut-être qu'ils étaient tentés d'arrêter. Tu sais. Mais Pierre, dans leur épître, il leur dit, même dans la souffrance, même lorsque les gens n'acceptent pas, ils devraient rechercher de continuer à toujours faire le bien et à être irréprochables et à mettre leur confiance en Dieu. Et je crois que s'ils le répètent ça, c'est parce que la tentation était forte, vous savez, de remettre en question, de continuer de faire le bien. Puis c'est comme ça pour nous aussi. Lorsqu'on fait du bien, puis qu'on a des difficultés, puis on fait du bien, puis ça ne va pas mieux pour nous. Des fois, on peut être tenté, vous savez, de remettre en question, de continuer à faire le bien. Est-ce que vous êtes... Ça vous arrive-tu des fois? Okay. Et en fait, l'apôtre Pierre, vous savez, « Oh non, j'ai-tu de la misère avec ça? Hein? » En fait, l'apôtre Pierre, il leur dit, juste dans 1 Pierre 2, versets 11 et 12, il dit ceci, il dit, « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Et il dit, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Il les encourage de continuer. Pierre les encourage à rechercher, à toujours faire le bien. En fait, il les encourage à suivre les traces de Jésus, à imiter Jésus-Christ, quel que soit leur statut social ou leur place. On voit ça dans l'épître de Pierre. Jésus devait être leur modèle d'obéissance et surtout au milieu de la souffrance, des grandes difficultés que ça pouvait leur causer. Et je crois que c'est une exhortation pour nous à continuer à faire le bien et parfois d'une manière extravagante, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Puis vous savez, aujourd'hui, ça va quand même assez bien. Comme chrétien, on n'est pas trop persécuté. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Puis si ça s'en vient, si un jour, vous savez, les gens sont... Le monde autour de nous nous persécute de plus en plus parce qu'on a des valeurs différentes. Qu'est-ce que nous allons faire? On est mieux d'être préparé. Je pense que c'est un message pour nous préparer si jamais ça nous arrive. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous ne vivons pas aujourd'hui, comme je le dis, nécessairement le même degré de persécution au Canada que les premiers chrétiens, puis merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein, on ne court pas après. Hein? Mais nous vivons, on pourrait dire, dans une époque, vous savez, qui ressemble étrangement à ce que Pierre décrit dans sa lettre concernant la moralité. La moralité, on voit ça dans son épître. En fait, il dit aux chrétiens dans le chapitre 4, verset 3, il dit, « C'est déjà bien suffisant d'avoir, par le passé, accompli la volonté des non-croyants marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les autres beuveries, ainsi que les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne précitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » On pourrait dire que Vraiment, il y a de plus en plus de personnes, peut-être, il y en a de plus en plus qui nous trouvent étranges parce que nous croyons que la vraie vie, la vraie joie ne se trouve pas dans le désordre, puis la convoitise, puis dans la débauche, puis l'immoralité. Nous croyons que la vraie vie, elle se trouve en Jésus-Christ. Nous croyons vraiment que la vraie joie se trouve en Jésus-Christ et en suivant sa parole. Il y a bien plus de joie à suivre le Seigneur que de qu'est-ce que le monde offre. Et je crois que nous pouvons et nous devons montrer à notre génération que c'est beaucoup meilleur de marcher avec Jésus. Il y a beaucoup plus de joie. Et parfois, vous savez, nous sommes persécutés ou ridiculisés, ou nous pouvons être rejetés parce que nous croyons en Jésus et que nos valeurs sont différentes que ceux du monde. Et ça nous arrive parfois. Et qu'est-ce qu'on devrait faire lorsque des gens, ils voient qui nous mettent de côté ou qui nous ridiculent à cause qu'on a des valeurs différentes? Nous devrions continuer à leur faire du bien. C'est ce que la parole de Dieu. On doit leur dire la vérité aussi, leur dire la vérité dans l'amour. Mais en plus, vous savez, nous vivons dans une génération aujourd'hui qui met une très grande emphase sur la revendication de nos droits personnels. La culture que nous vivons, on nous dit beaucoup, chaque personne a le droit de se défendre pour ses droits, de postuler pour ses droits et devrait le faire comme une priorité, nos droits personnels. J'espère que je ne vous perdrai pas là, à travers, mais je m'en vais à quelque part avec tout ce message ici. Là. OK? Mais on vit dans un monde où c'est très important de défendre nos droits, tu sais, puis de postuler pour nos droits. Mais vous savez, si la réalité, c'est que si nous ne sommes pas prudents, nos droits peuvent devenir une obsession qui peuvent causer plus de troubles que de bien dans notre société. Puis c'est la raison pourquoi il y a beaucoup d'anarchie aussi dans notre monde, de révolte, de tout ça, parce qu'on est beaucoup centré sur moi, et en fait, ça cause des problèmes. Mais qu'est-ce que je veux dire ici, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nos droits... Et comprenez-moi bien avec cela. Je ne suis pas contre la protection de nos droits puis des droits de chaque individu. Il y a une place pour ça dans la volonté de Dieu. OK? Il y a une place pour ceci. Mais si nous ne sommes pas prudents et que ça devient une priorité tellement grande dans notre vie, nos droits peuvent devenir plus importants que de faire la volonté de Dieu. C'est ça que je veux dire. Parce que parfois, la volonté de Dieu, c'est de laisser nos droits de côté pour faire ce qui est bien, ce qui est mieux, ce qui est meilleur. Êtes-vous avec moi? Et on retrouve ce message-ci dans l'épître de Pierre, vraiment. Et parfois, c'est la manière que Dieu va utiliser pour gagner la guerre, pour l'avancement de son royaume. Et pour être capable de toujours faire le bien de la volonté de Dieu, lorsque nos droits sont bousculés, il faut comprendre que dans le monde où nous vivons, présentement, parfois, ça peut nous arriver, que nos droits sont bousculés. Puis, ce n'est pas étrange, ça fait partie de la vie chrétienne. Et je vous dis ceci parce que pour continuer de faire le bien en toutes circonstances, il faut comprendre que parfois, nos droits, il faut les mettre de côté pour l'avancement du royaume de Dieu. Je ne vous prêche pas du lait ce matin. Mais si nous voulons vraiment avoir une influence sur notre monde, il faut qu'on soit différent que notre monde. Vous êtes avec moi? Et vous savez, comme chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de l'influence de notre culture, de notre monde, qui cherche à nous persuader à un tel point que parfois, que le monde peut nous persuader à un tel point que nous arrêtons de faire le bien autour de nous comme que Dieu voudrait qu'on le fasse, que nous arrêtons de faire la volonté de Dieu et que le témoignage que nous avons perd toute son efficacité. On est appelé à être différent. Et je le dis-tu, je le dis-tu pas? Malheureusement, je vais le dire, Master, il faut que je le dise. Mais malheureusement, vous savez, il y a bien des sondages qui montrent que dans certains endroits, puis dans certaines églises aussi, qu'il y a très peu de différence entre le monde qui nous entoure et l'Église. Malheureusement. Et le témoignage ne parle pas fort. Et si nous voulons être efficaces pour évangéliser notre monde, puis pour faire une différence dans le monde, il faut qu'on soit différent. Amen. Puis lorsqu'on chantait le chant tout à l'heure, « Seigneur, touche-nous, Seigneur. » Être touché par Dieu, vous savez, c'est aussi d'être touché pour voir le monde comme que Dieu le voit, puis pour être comme Jésus dans notre monde, pour faire une différence pour le monde. C'est avec... Vous allez m'inviter encore? OK. Une troisième chose que je veux voir avec vous, troisième point, c'est que la fournaise est étrange en faisant le bien. Parfois, en faisant le bien, on peut avoir l'impression de se retrouver dans une fournaise. C'est un peu ça que Pierre il dit ici. Il dit, en fait, dans le verset 12, il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Il dit, ne soyez pas surpris. T'sais. En fait, il dit, comprenez que ça fait partie de votre appel en tant que disciple de Jésus-Christ de vivre certaines épreuves qui ressemblent à une fournaise, que tu ressens comme tu es dans une fournaise. T'sais. Et il leur dit, ça ne devrait pas vous surprendre que vous vous retrouvez de temps en temps dans une fournaise, ça fait partie de la vie. Le mot fournaise, le mot grec, c'est pyrosis, qui parle d'un feu purificateur, un feu qui raffine. En fait, c'est des épreuves qui éprouvent le caractère. Hein? Et la fournaise, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La fournaise... C'est peut-être mieux de rester jusqu'au bout pour me dire que c'est une bonne nouvelle. Là. La fournaise, ça fait partie de la vie chrétienne pour nous façonner à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ, pour brûler en nous les mauvaises dispositions de notre nature humaine, les mauvaises choses qu'il y a dans notre cœur. La fournaise, ça fait partie de la vie chrétienne pour nous raffiner, pour nous perfectionner. Vous savez, c'est dans la fournaise que les matériaux deviennent, on pourrait dire, liquides, raffinés, malléables. Hein? C'est lorsqu'ils sont dans la chaleur que tu peux faire quelque chose avec, tu sais. Et nous aussi, c'est dans la fournaise que nous sommes transformés, que nous sommes raffinés, que nous sommes sanctifiés, que nous apprenons à connaître et à vivre et à aimer selon le cœur de Dieu. Il y avait un amen. Et la fournaise que Dieu permet dans notre vie, ce n'est jamais pour nous punir, ce n'est jamais pour nous détruire, mais c'est pour nous perfectionner. C'est pour nous libérer, c'est pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, pour nous donner la vie. C'est pour ça. C'est pour ça la fournaise. Puis les épreuves de la fournaise, vous savez, le feu de la fournaise, on pourrait dire, qui nous arrive, ça vient sous différentes formes qui peuvent nous surprendre. On ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas. Quelqu'un a dit, si on pourrait choisir nos épreuves, ça ne serait pas des épreuves. C'est vrai. C'est... Et on peut être surpris par les épreuves qui nous arrivent, mais on ne devrait pas être surpris de se retrouver de temps en temps dans la fournaise. Et si nous prions que le Seigneur nous change, puis que le Seigneur nous apprenne à vivre selon son cœur, c'est sûr qu'on va passer dans la fournaise. C'est... Il n'y a personne qui aime les épreuves de la fournaise. Y a-t-il des gens qui aiment ça ici? Moi, je n'aime pas ça. Mais après, par exemple, merci Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a promis d'être avec nous dans la fournaise. Amen. Mais le point que je veux dire ici, que je veux apporter ici, vous savez, le point central que je veux à travers ce message, c'est que parfois, la forme que la fournaise peut venir dans notre vie, c'est à travers le rejet d'une personne à qui nous avons fait du bien. On fait du bien, puis la personne ne le reçoit pas, ou la personne qui nous rejette. Et je peux vous dire, vous savez, je me souviens au début de ma vie chrétienne, il y a des personnes... Il y a des personnes qui m'ont rejeté. Il y a des personnes que je voulais aimer, puis j'étais, tu sais, puis qui m'ont, ils m'ont rejeté, ils m'ont mis de côté, ils m'ont, tu sais. Puis ça, je peux vous dire que le sentiment que j'avais à l'intérieur, ça faisait mal. Et vous avez probablement, vous aussi, déjà été là, tu sais. Ça fait mal à l'intérieur, dans ton cœur. Ça file comme tu es dans une fournaise. C'est comme ça brûle. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Tu sais. Puis le Seigneur m'a appris déjà, il voulait m'apprendre une leçon au tout début de ma vie chrétienne, que ça faisait partie de la vie chrétienne. Si je voulais vraiment être un disciple de Jésus-Christ, que je voulais apprendre à aimer comme Dieu, que je voulais être tous comme Jésus, de temps en temps, que ça faisait partie. Ça faisait partie de la fournaise. Il fallait que j'apprenne. Je n'avais pas besoin d'être surpris. Et l'apôtre Pierre, il dit, ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez dans la fournaise. Et c'est dans la fournaise, lorsque les gens sont difficiles à aimer, je prends juste ce point-là ce matin, c'est dans... Lorsque les gens sont difficiles à aimer, que nous apprenons à aimer comme Dieu nous aime, selon le cœur de Dieu, que nous apprenons à aimer en profondeur, lorsque c'est difficile à aimer, puis quand nous sommes dans la fournaise. Mais si nous laissons la fournaise faire son œuvre, nous allons être transformés. Notre cœur va être transformé. Et nous allons apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Et ce n'est pas étrange, ça nous arrive si nous désirons vivre selon le cœur de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Dieu veut agir à travers son Église. Et pour agir à travers son Église, il doit transformer son Église. Il doit transformer nos cœurs. Il doit nous apprendre à aimer et à vivre selon le cœur de Dieu. Et je termine ce matin. Allez. OK. Que devons-nous faire lorsque notre bien n'est pas toujours bien reçu? Je vous pose la question ce matin. Peut-être que... Vous savez, j'ai un peu le sentiment, peut-être que ça s'applique pour certaines personnes ici. Vous êtes dans des situations, c'est comme ça. Peut-être que ça ne s'applique pas nécessairement, mais peut-être qu'un jour, nous allons avoir besoin. Nous allons en avoir besoin. Mais qu'est-ce que nous devons faire lorsque notre bien n'est pas toujours bien reçu? L'apôtre Pierre, il nous dit ceci. Dans un, il dit, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Nous devons continuer à faire le bien, continuer à prier pour eux, continuer à proclamer le nom de Jésus-Christ en démontrant un amour extravagant envers eux. C'est la façon. C'est ce que la Bible nous dit de faire, vous savez. C'est ce que Pierre nous dit de faire, ce que Dieu nous dit à travers Pierre. C'est la volonté de Dieu. John Wesley a dit ceci. Il a dit, « Faites tout le bien que vous pouvez par tous les moyens possibles, de toutes les manières possibles, dans tous les endroits possibles, à tous les moments possibles, à toutes les personnes possibles, aussi longtemps que vous le pouvez. » Et je crois que ça résume bien la volonté de Dieu pour notre vie. Et Jésus, lui, il l'a dit comme ça. Moi, j'aime... Puis vous aussi, on... Jésus l'a dit comme ça dans Matthieu 5. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos belles manières, votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Amen. C'est notre appel comme Église. Et si nous voulons exercer une influence sur notre monde pour le royaume de Dieu, nous devons aimer à la manière de Dieu, faire le bien à la manière de Dieu, comme Jésus le fait. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, je veux vous encourager à continuer à faire le bien en toutes circonstances. Amen. La musique a même commencé. Ça doit être le temps que j'arrête. Hein? Il y a un téléphone. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, je suis béni lorsque j'entends parler de le Noël d'amour. C'est comment démontrer l'amour de Dieu. C'est vraiment un bel exemple. Puis je veux féliciter Mireille qui a ça dans son cœur, puis l'Église aussi qui le supporte, et toutes les choses. Et continuons à faire le bien. Amen. Et à proclamer le nom de Jésus-Christ, la puissance de Jésus. Parfois, les gens, ils veulent pas entendre, mais ils peuvent voir. Puis parfois, ils ont besoin de voir avant qu'ils soient prêts d'entendre. Et c'était une des manières que l'Église du Nouveau Testament a pu conquérir le monde. Et je crois que nous aussi, ça n'a pas changé aujourd'hui. Il faut démontrer par des actions concrètes l'amour de Dieu et la grâce de Dieu avant que les gens soient prêts d'entendre. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Mais la grâce de Dieu est là pour nous aider. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble?